L'entrevue.
L'entrevue ?
L'entrevue ?
L'entre quoi ?
L'entrevue. L'émission d'actualité locale sur Radio La.
3, 2, 1, 0.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio La, web radio curieuse à Dieu le fit. Soyez les bienvenus dans l'entrevue, l'émission qui explore l'actualité et les initiatives locales. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet passionnant et controversé, le loup, un animal qui, depuis son retour en France, ne cesse de susciter passion, crainte et débat. En 2025, le loup continue de diviser, notamment dans nos territoires ruraux, où l'élevage et la prédation coexistent. On parle du loup, mais le connaît-on réellement ? Pour en savoir plus, nous recevons Adrien Ragenbass, ingénieur éthologue, spécialiste des grands prédateurs. Une voix singulière qui prône une approche plus nuancée pour mieux comprendre et cohabiter avec cet animal. Bonjour Adrien.
Bonjour Marin, bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous. Je précise que tu as donné une conférence sur ce sujet il y a 10 jours, sortir du pour et du contre le loup, au café La Mine d'Art de Dieu le fit, que l'on salue, et on s'est dit pourquoi pas prolonger la discussion à la radio. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, une première question pour mieux comprendre ton parcours. En quoi consiste la profession d'ingénieur éco-éthologue ?
Alors, l'ingénieur de recherche, c'est celui qui fait le lien entre le secteur académique, donc, et avec les acteurs du terrain. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut apporter des conditions optimales sur un terrain donné pour y apporter de la science écologique, c'est-à-dire comprendre l'environnement, les dynamiques, et en l'occurrence, en ce qui me concerne, en éco-éthologie, c'est-à-dire comprendre le comportement d'une espèce donnée en interaction avec ses congénères et avec son environnement.
D'accord.
Y compris l'homme, attention, l'homme est un animal comme les autres, il fait partie de l'environnement aussi, donc il faut le comprendre dedans.
Qu'est-ce qui t'a poussé à te spécialiser dans l'étude des grands prédateurs et plus spécifiquement du loup ?
Alors en fait, c'est un reportage bêtement sur Yellowstone que j'ai vu à l'âge de 7-8 ans, où j'ai vu Douglas Smith, un des pontes que j'ai fini par rencontrer d'ailleurs, et où j'ai vu vraiment, on y voit de la vraie prouesse technique, réfléchie, scientifique, ergonomique, où justement ils ont réussi là-bas en fait à réintroduire un animal. Nous, on l'a pas réintroduit, il est revenu tout seul. Mais là-bas, ils l'ont réintroduit. Et en plus, ils ont fait en sorte d'avoir un protocole de suivi technique et scientifique extrêmement compétent et faire en sorte de dépasser les pour et contre, justement, à l'époque, vis-à-vis du loup, pour garantir sa survie dans l'écosystème et sans qu'il se fasse au détriment des activités humaines.
Ça, c'était dans les années 90, il y a une trentaine d'années.
Oui, mais après 20 années de débat sur comment est-ce qu'on fait, etc. Et avec une concertation avec toutes les parties prenantes de la société.
En France et en Europe plus largement, ça fait également une trentaine d'années que le loup est de retour, comme on dit. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais si on doit résumer sur l'état actuel du loup en France, dans notre pays, où en est sa présence de cet animal ?
Alors, pour la France, l'espèce est arrivée officiellement sur le territoire dans les années 90, tout début. Il dépasse les frontières. Ah oui, tiens, on s'y étonnait à l'époque. C'est un animal qui est capable de faire plus de 1000 km en état de dispersion. Et puis en plus, surtout quand on ne cherche pas l'animal, contrairement aux États-Unis, on n'a pas de dispositif actif de suivi, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les données officielles de l'Office français de la biodiversité, parce que déjà elles sont assez éloquentes comme ça. Le quart sud-est est entièrement occupé. On a des meutes qui sont au touche-à-touche. Les Vosges sont occupées également. Le Massif central commence à l'être de plus en plus. Les Pyrénées également. Les Cévennes aussi depuis les années 2014, même avant, potentiellement. Et le reste du territoire est globalement dans ce qu'on appelle le front de colonisation. C'est-à-dire vous avez des loups qui sont des individus qui circulent très certainement, qui se territorialisent pas forcément. Mais bon, tant qu'on cherche pas, vous savez, même les Américains qui les suivent activement, qui posent des colliers GPS sur des individus, etc., ils vous disent qu'ils font entre 5 à 7 ans entre le moment où une meute s'installe sur un territoire donné et le moment où elle va être vraiment perceptible par les populations locales. Donc t'imagines, pour nous, évidemment, on peut avoir du loup du jour au lendemain sans s'en apercevoir. En fait, ils sont là, mais comme ils ne se montrent pas de base, et par contre, ils vous analysent. Ils savent très bien comment éviter la circulation humaine, il n'y a pas de problème. Et c'est une fois qu'ils sont chez eux, bien installés, qu'ils n'en ont rien à foutre et qu'ils se décident enfin de se montrer. Enfin, c'est même pas qu'ils se décident de se montrer, c'est qu'en l'occurrence, hop, coup de chance, vous envoyez un, mais en fait, ça fait 2-3 ans qu'il est là. Quoi. Ouais. Il est déjà chez lui, c'est le taulier.
Il y a une sorte de conquête vers l'ouest qui se passe. On a vu jusqu'en Bretagne.
Oui, oui. Alors, notamment. En plus, en Bretagne, on en a probablement les deux. Parce qu'on a une double recolonisation naturelle, en fait, qui se fait. Alors, d'abord, évidemment, l'Italie, on la connaît très bien. Mais maintenant, depuis le foyer de population germano-polonais, on a également une arrivée significative d'individus en provenance de ces régions-là, qui ont colonisé également le Danemark, le Benelux avant. Et puis aujourd'hui, de toute façon, on est sur des ponts de distance qui sont extraordinaire quand vous comparez. En plus, on a les analyses génétiques que fait l'OFB qui vous disent très bien que là on peut discerner de l'italo-alpin, du germano-polonais. Donc, et en plus, voilà, même si on manque de données éco-éthologiques, dispersion, etc., ça va se coupler, je pense, aussi aux analyses génétiques qu'on a déjà.
Alors le loup gris, il avait pratiquement disparu, donc il revient depuis une trentaine d'années. Quel changement provoque ce retour? Toi, tu parles de bouleversement, j'utilise le mot bouleversement.
Oui, bouleversement. Alors après, au niveau écosystémique, on a zéro donnée, en tout cas en France, parce que les pro-loups vont vous dire que mais c'est formidable, c'est bien pour la biodiversité. Non, le retour d'une espèce, c'est le retour du sauvage, c'est le retour d'une espèce. Après, est-ce qu'on a une est-ce qu'on peut provoquer des vrais travaux de connaissances sur les changements écosystémiques du loup en France, comme on a fait aux États-Unis? Bah oui, on pourrait, mais on ne le fait pas. À Yellowstone, on a bien vu que la reconstitution de la guilde des grands prédateurs, loup, puma, ours, a restructuré l'écosystème, l'a rendu plus balancé, mais en France, on n'a pas mené ces études-là.
Donc ça reste.
Alors par contre, ce qui a changé, c'est au niveau des. Et ça, c'est déjà en cours dans le quart sud-est, là où on a des foyers de prédation. Les éleveurs ont appris à modifier leur comportement, enfin leurs us et coutumes, leurs méthodes, notamment en prenant des chiens de protection, prendre des clôtures, essayer d'analyser les schémas de déplacement des loups à leur échelle. Ce sont des gens qui ont obtenu une vraie compétence technique et ergonomique et qu'on n'écoute pas assez d'ailleurs, à mon sens.
Bah, peut-être quand on est sur l'élevage, on viendra sur tous les aspects qui sont liés au loup, mais il y a des dégâts, on peut que le constater par le loup. Est-ce que tu peux nous en parler? Combien d'animaux d'animaux d'élevage sont tués chaque année, par exemple?
Oui, alors
est-ce qu'on le sait?
Ah oui, on le sait. C'est la DREAL, donc la Direction régionale de l'environnement, de l'agriculture, je crois, et du logement. DREAL de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où en gros c'est l'organisme qui articule en fait toutes les données. Depuis 2000, on a une croissance pas exponentielle mais très linéaire du seuil d'attaque, vraiment une augmentation de plus de 1000 bêtes par année jusqu'en 2018, où on atteint à peu près les 13 000 pertes, donc animaux de rente tous confondus, mais 90% des ovins. Là, on peut les retrouver sur les recherches de l'INRA, de Michel Meuret entre autres. Et on a une légère baisse, on a un plateau à partir de 2019-2020 où là on a une légère baisse, mais bon, c'est pas fini pour autant. On est encore à plus de 10 000 pertes l'année dernière, animaux tués par les loups au niveau officiel. Attention, encore une fois, on n'est pas là pour faire de la polémique. Et comme j'ai dit tout à l'heure avec les données de l'OFB, d'accord, c'est incomplet, etc., mais c'est déjà très éloquent comme ça. Je veux dire, c'est très satisfaisant déjà. On peut se baser là-dessus.
D'accord. Donc il y a une
la réflexion, oui.
Donc il y a une réalité
Alors par contre, en plus, au niveau des constats de dommages, et le dispositif de remboursement, etc., au niveau français, il est très bien fait à ce niveau-là.
La présence du loup, du coup, entraîne ces dégâts au niveau de l'élevage. Peut-être du point de vue écologique, quel est son rôle dans l'écosystème, finalement, si on regarde du point de vue inverse?
Un grand prédateur, par son activité de prédation, il opère une forme de pression sur tous les occupants d'un territoire donné, et qui va modifier leur comportement, aussi bien directement ses proies, en changeant en dispersant les hardes, etc., et a fortiori, en cascade, les espèces dont se nourrissent ces proies. Donc, le grand prédateur, c'est justement à l'âge adulte, et lui ne subit pas trop de pression, à part celui de la part d'un autre super prédateur. On va reprendre Hobbes, le loup est un homme pour le loup aussi. Voilà.
Toi, tu évoques le retour du loup comme une évidence biologique.
C'est pas moi qui le vois, ce sont l'ensemble des experts européens et américains qui le constatent. Moi, j'ai rien inventé.
Qu'est-ce que ça induit, cette évidence biologique? Qu'est-ce que ça veut dire, finalement?
Ça veut dire qu'en à peu près moins d'un siècle, la France est passée d'un territoire où on avait plus de forêt, puisqu'on utilisait bois pour tout, amirauter, énergie, construction, etc. La démocratisation du braconnage et des armes à feu aussi a fait disparaître l'ensemble des grands anguilles sauvages en règle générale. Et on avait des territoires avec très peu de forêt, beaucoup, très peu de gibier, mais beaucoup d'hommes, beaucoup de moutons et beaucoup de loups. Donc forcément, c'était la casse. Et c'est là où, c'est dans ces périodes de famine, où les loups se mettaient parfois même à attaquer les humains. Donc c'était devenu un ennemi public numéro un. Et dans ces conditions-là, l'homme a décrété la guerre totale sur le territoire de cet animal. Et même avec toutes ces cartes en poche, il a fallu 150 ans aux hommes, avec le poison, avec le machin, pour y arriver. Aujourd'hui, ça fait depuis les années, dans les années 40-50, on a eu une grande politique de reboisement du territoire. Aujourd'hui, un tiers du territoire est boisé. Les chasseurs, je ne dis pas ça seulement parce que je suis chasseur moi-même, mais on a participé, enfin mes prédécesseurs ont participé au renforcement des populations de grands gibiers. Donc aujourd'hui, on a, que ce soit le cerf, le sanglier, le chevreuil, vous regardez les tableaux de chasse, les chiffres de l'OFB, c'est extraordinaire, la croissance qu'ils ont. Donc en fait, l'animal, quand il revient petit à petit, déjà en Italie, il est protégé depuis les années 70, il se retrouve du jour au lendemain dans un milieu où il y a beaucoup de forêts, beaucoup de gibier, et où il est protégé légalement. Donc vous avez toutes les conditions optimales pour une recolonisation en règle générale de tout le continent européen. Les experts le disent, même le CORA en Suisse le disent très bien dans un bilan en 2020, l'espèce elle est de moins en moins fragile, elle l'est même pas du tout finalement, elle recolonise l'Europe continentale. Et pour compléter, c'est Luigi Boitani, une référence italienne de l'université de Rome, qui dit mais maintenant il faut gérer une abondance désormais. Et c'est là que le travail commence.
Sur on parlait en début d'émission, en introduction, c'est un sujet qui peut crisper le loup. Les éleveurs notamment, ou les personnes en tout cas qui disent mort au loup, qu'est-ce que tu leur réponds en tant qu'éco-éthologue ?
J'ai pas grand-chose à leur répondre, parce que à ce niveau-là, au niveau émotionnel, parce que je ne vis pas ce qu'ils vivent. En revanche, professionnellement et même à titre d'humain, je comprends parfaitement, et ces cris de mort au loup sont plus des cris au secours qu'autre chose. En fait, les éleveurs, du jour au lendemain, dans les années 90, ils ont vu réapparaître un animal qui était dans l'imaginaire psychologique, etc., un animal exotique. C'était le grand nord canadien, le loup, c'était pas l'Italie, etc. Et puis en fait, ils reviennent d'un coup et ils savent pas comment se préparer. En deux, trois générations, les éleveurs...
Ça a été oublié, parce qu'on le savait avant.
Exactement, les anciens sont les plus au courant des conditions que vous avez. Dans les vieux récits Cévenol, etc., ils vous en parlent. Mais en gros, ils sont tournés vers la société des hommes en disant mais qu'est-ce qu'on fait ? Et la réponse qu'ils ont eue, c'était vive les loups, etc. D'une population qui était surtout urbaine d'ailleurs, qui a des posters de loups dans sa chambre, etc. Mais qui n'ont jamais vu de leur vie, et qui leur disent mais en plus, retire-toi les doigts, hein, pour être un peu grossier, mais parce que la violence s'est ressentie comme ça. Boss. Ces personnes-là donnent des leçons à des éleveurs qui se lèvent à 5h du matin, etc., et dont personne n'a envie de faire ce travail-là. Et ça a inspiré en fait aux éleveurs, ce que ça leur évoque aujourd'hui, c'est plus de travail, plus de complications, et pour le même salaire, voire moins. Mais ça, il n'y a pas beaucoup de secteurs professionnels qui accepteraient ces conditions.
Au final, c'est une forme de préparation, d'anticipation qui n'a pas été faite.
Parce exactement.
Que le retour du loup, toi, tu parles d'évidence biologique.
On aurait dû le voir depuis longtemps.
On parlait depuis tout à l'heure. On va pas. C'est bénéfique, on va dire. C'est une bonne chose. J'imagine qu'on peut dire. En tout cas, c'est là.
C'est là, que ce soit bien ou pas. Donc maintenant, c'est à nous de travailler collectivement dessus, puisque c'est le problème d'une société. C'est pas un problème d'éleveur. Moi, le premier, je suis client. Je vais être client de ces éleveurs-là. Je mangeais leurs brebis. Je leur achetais, hein, évidemment. leurs produits, et avoir le moins recours possible à d'autres sources de nourriture qui ont plus d'impact en production de carbone, etc.
Et c'est vrai que là, il y a une forme de paradoxe, parce que sociétalement, on tend vers les élevages extensifs, vers le pâturage, et puis l'envie de manger du fromage, de la viande ou du lait qui vient d'animaux qui ont vécu dehors, en fait. Et c'est ces animaux-là qui sont vulnérables face au loup.
Ah, c'est sûr, c'est pas les porcs bretons entre quatre murs ou les poulets KFC qui risquent de se faire bouffer par des prédateurs.
Toi, concrètement, sur le terrain, peut-être pour venir sur tes missions, tu travailles donc pour le CIVAM
PPML
en Gironde. Tu vas nous rappeler ce que c'est. Donc, peut-être le contexte, c'est que là-bas, la connaissance du loup n'est pas du tout comme ici.
Oui, non, mais même elle est assez comparable, à part qu'on n'a pas d'éleveurs expérimentés avec des loups. En fait, justement, tu parlais du manque d'anticipation, et bien c'est justement ce collectif d'éleveurs, le CIVAM PPML. Ils sont 43 éleveurs, il me semble. Mais bon, ça augmente un petit peu à chaque fois. Le nombre de signataires, en fait, qui disent, mais en fait, nous, on voit ce qui se passe ailleurs. Il se trouve dans un massif forestier qui s'appelle La Double, de 800 km². Et en fait, dans ce massif forestier, c'est une terre tellement pauvre qu'en fait, vous ne pouvez pas faire autre chose que l'élevage. Donc, ils ont des élevages dans la clairière. Donc, ils se disent, si les loups arrivent, on est encerclés, c'est fort à la mot. Donc, et eux, leur réflexe, c'est justement d'anticiper. Ils disent, mais en fait, on a besoin de scientifiques, de gens qui savent à peu près comment opérer pour relever de l'information en temps réel. Et c'est ce que je fais justement aujourd'hui. D'abord, on construit un réseau d'entente, c'est-à-dire on forme des personnes volontaires pour participer à l'effort de vigilance sur les indices de présence, les traces principalement, mais les crottes, les hurlements, comment en reconnaître un, les distinguer des chiens loups tchèques ou de sarlots, etc. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce travail du plan de prévention du risque de prédation, c'est que les habitants eux-mêmes du territoire sont dans une dynamique active pour mieux comprendre les changements qui s'opèrent sur leur propre territoire, en l'occurrence sur le loup. Et donc du coup, moi je forme des gens sur des promeneurs, des habitants, etc. Grâce aux chasseurs, on place ensemble des pièges photos sur les principaux lieux de corridor pour observer le comportement des ongulés sauvages, qui sont les premiers affectés par le retour d'un grand prédateur. Donc, est-ce qu'on a un changement de comportement? Et en plus, c'est d'autant plus intéressant d'avoir un contexte où officiellement, il n'y a pas de loup, puisque le jour où il y en aura officiellement, est-ce qu'on verra une différence de comportement et d'usage? Et après, une fois qu'on remarque des traces, des crottes, etc., on les fait, moi, je les traite d'une manière que j'ai acquise, enfin avec une méthode que j'ai acquise en master, par le biais de la recherche scientifique, et qui est destinée à deux pôles. D'abord les éleveurs, qui sont signataires, et tous les signataires d'une charte, parce qu'on fait ces infos-là, je les transmets dans un cercle de confidentialité, parce qu'on ne fait pas ça pour la chasse au loup ou pour faire venir des photographes. Et les deuxièmes destinataires, ce sont l'Office français de la biodiversité, les autorités, en fait, en gros, nationales, pour faciliter l'application du plan national loup sur le département.
Ok. Et t'as l'impression que, du coup, ce travail en commun, ce réseau d'entente dont tu parles à travers ce plan de prévention des risques, permet de dépasser un peu cette question de pro-anti-loup, enfin comment est-ce que vous...
Et oui, parce qu'en fait, les gens du territoire voient bien qu'on ne les prend pas pour des truffes. Alors que la gestion du loup, dès le départ, ça fait 30 ans, c'est dû à des choix politiques où l'État s'est réservé le monopole du discours technique et scientifique. Donc on a toujours une confusion entre le scientifique et le réglementaire en France. Et on le voit par ceux qui l'appliquent, sont l'OFB, même s'ils ne sont pas responsables, ce sont des choix politiques. Et en fait, le choix politique, ça a été le pas de vague. Pas de vague, on diffuse le moins d'informations possible, histoire de pas affoler les esprits. Ce qui est tout à fait louable, mais très manquant lorsqu'on n'a pas le facteur qui complète cette approche-là, qui serait la science pour divulguer de la donnée officielle, traitée, sourcée, référencée, voilà, très technique. Et du coup, lorsque vous n'avez pas ce chaînon manquant, eh bien en fait, avec un État qui vous le dit le moins possible, et sans que ce soit un complot, que ce soit caché, c'est juste, en fait, les gens, en fait, quand vous faites une omerta, entre guillemets, vous voulez faire un truc opaque, pas de vague, vous inquiétez pas, les gens, ils vont s'en occuper, ils vont développer des sentiments un peu paranoïaques, etc., comme on voit chez les pro-loups, par exemple. C'est de la suspicion en permanence, et ça crée un climat qui n'accueille pas la confiance. Or, c'est la confiance le premier élément pour faire de la science.
Confiance, connaissance.
Confiance déjà pour savoir, quand je vois un indice, à qui je le fais remonter, et est-ce qu'il va me prendre pour un con ou pas? Parce que souvent, les mecs, ça a été ça. Et encore en Dordogne, en Gironde, là où je travaille, j'ai des témoignages. Alors, vous le dites pas à n'importe qui, parce que je veux pas qu'on dise, machin, il a vu. Non, vous inquiétez pas, on prend personne pour un crétin. On respecte le protocole de suivi international. Les critères internationaux scientifiques, c'est les gens du coin disent la vérité, et c'est aux experts de vérifier. Et c'est pas l'inverse.
Je te propose de faire une pause musicale avec une de tes propositions, Howling Wolf, évidemment, de Bluesman, avec le titre Smokestack Lightning.
Oh.
À tout de suite sur Radio-là.
Écoutez l'entrevue sur Radio La. Nous sommes toujours avec Adrien Ragenbass, ingénieur en éco-éthologie, spécialiste du loup, pour parler de ce prédateur qui divise. Voilà, toi, tu proposes de sortir du clivage mort au loup d'un côté versus pas touche au loup de l'autre. Tu as donné une conférence à la mine d'art à Dieulfi il y a une dizaine de jours sur ce sujet. Comment, voilà, la question qui se pose finalement, je la pose un peu naïvement, mais comment cohabiter finalement avec cet animal qui est le loup en 2025? Quels sont les moyens pour répondre aux défis rencontrés? Ouais. Voilà, à la fois par les éleveurs et puis par les tenants de la défense de la biodiversité.
Bah bien sûr. Alors bon, au niveau des éleveurs, on commence à être bien rodé en fait. L'outil principal qui marche très bien, c'est le chien de protection et même les chiens de protection, parce que on a longtemps dit il suffit d'avoir un chien et genre c'est un Terminator, il va s'occuper tout seul, c'est magique. Non, il faut un attelage de chiens complet qui ont chacun leur rôle dans le combat. Ce sont les soldats en fait du dispositif. Vous avez l'éclaireur, le tank, le barbare, le poltron, la cavalerie qui vient en renfort, etc. Vous avez les roulements. Et en plus, voilà, c'est très compliqué parce que c'est un chien qui vit, le chien de protection, que ce soit le patou, le chaos des gados, c'est des grosses races, donc ils vivent 8-9 ans si tout se passe bien, donc ils sont 6 ans efficaces. Donc il faut faire des roulements, etc. Il faut savoir les briefer, comment les faire distinguer de l'intrus souhaitable, enfin tolérable, comme le promeneur, le VTZ, et l'intrus intolérable, genre le loup, le lynx, etc. Voilà. On a la clôture qui permet aux soldats d'identifier la zone à défendre et même de pouvoir raccompagner les intrus à la frontière, parce que les chiens ils se contentent pas de faire wawa, hein, ils vont à la castagne et ils peuvent tuer des loups ou en blesser, et inversement. Et l'homme, l'éleveur, est un peu le général, en fait, c'est l'état-major. Voilà. Donc ça, ce triptyque, il fonctionne bien, et d'ailleurs, voilà, c'est la montée en expérience des éleveurs qui montre probablement cette diminution progressive. On verra sur les prochaines années, mais ça fait 3-4 ans que le seuil de dégâts n'augmente plus. Donc les mesures de protection marchent. Après, là où il y a un gros impensé du plan national loup, c'est au niveau de la société. Et d'ailleurs, j'ai des éleveurs qui me disent maintenant, mais nous, les loups, on sait gérer. Par contre, notre problème, c'est les gens.
Notamment en randonnée, enfin sur...
Ah bah oui. Celui qui promène son border collie ou son labrador détaché, parce que vous comprenez, la laisse, hein, c'est quand même pas supportable pour un chien. Excusez-moi, je pleure un peu. Voilà, donc le problème, c'est que le fait de vivre avec un grand prédateur, ça implique des changements de comportement et d'usage du territoire. Dans les zones à loups, par exemple, vous emmenez pas votre chien en liberté. Il y a d'autres chiens qui sont là, qui bossent. Et comme le chien, c'est du loup, un intrus à quatre pattes, eux, ils le voient plus facilement comme un intrus de type loup. Et au niveau des hommes, c'est aux hommes de se comporter, de savoir comment faire.
Canis lupus, c'est la même, c'est la même famille.
Ah oui, comme Canis lupus familiaris. Voilà, exactement. Et c'est au niveau de l'homme qui doit apprendre en fait, à se comporter. Notamment, quand vous avez des chiens de protection qui vous approchent, déjà, vous ne bougez pas, vous ne les regardez pas dans les yeux. Et surtout, si vous êtes en vélo, vous vous arrêtez. Mais en plus, ça tombe bien. Avec le vélo, vous pouvez le mettre entre vous et le chien. C'est toujours bon d'avoir un objet entre lui et vous. Comme ça, il va renifler cet objet. Et en plus, ça fait un peu un truc entre lui et vous. Donc, vous le laissez.
Plutôt s'arrêter que de continuer son chemin.
S'arrêter, absolument. Absolument.
On se fige.
Ah oui. Là, vous avez d'autres priorités là, à ce moment-là. Hein. C'est vraiment. Donc, vous le laissez vous analyser, même vous lui parlez. Salut mon popou, mais il fait bien son boulot, etc. Et vous attendez qu'il parte. Après, déjà. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas à ma connaissance, je n'ai pas entendu parler d'associations de trekkers, de vététistes, de promeneurs de chiens ou je ne sais quoi, qui ont cherché à se concerter pour mettre en place des comportements, pour faire de la pédagogie auprès de leurs usagers. ce serait intéressant à faire, on pourrait le mener. Quand je dis ça, c'est pas en mode c'est pas bien, je suis pas moraliste. Au contraire, c'est même des propositions, des suggestions pour qu'on réfléchisse ensemble, toute la société des hommes, à savoir comment est-ce qu'on change, on adapte notre société avec un nouveau facteur du sauvage qui est en plus un grand prédateur qui peut bouffer nos chiens. Enfin les chiens de protection etc et qui surtout en fait voilà parce que les risques sont sur l'homme sont très minimes c'est pas un risque zéro mais par contre au niveau des brebis etc là c'est un vrai danger et c'est pour ça qu'on a ces chiens de protection ils sont pas là pour faire joli et j'ai même un copain en Arménie cet été et il est allé il me l'a rappelé on n'a pas eu de problème de loup par contre des problèmes avec les chiens de protection heureusement on s'est bien comporté effectivement et ils ont pas eu de casse zéro mais ce sont les chiens qui vont les attaquer c'est pas les loups.
Oui, le danger, c'est les chiens de protection. Et du coup, s'adapter si on veut continuer à pouvoir profiter de ce qu'on disait tout à l'heure.
Oui, parce qu'il y a eu des histoires de procès avec ça. Vous avez l'éleveur qui, on lui demande de prendre des chiens de protection, il en prend. Et puis, juste parce qu'il a pincé une promeneuse, le chien se retrouve impossible à faire du travail parce qu'il est en procès, etc. Donc, vous comprenez l'embarras de l'éleveur et qui peut être révolté. Moi, je comprends parfaitement. Je reste humain.
Peut-être pour... on approche de la fin de l'émission. Ouais. Toi, tu étudies aussi d'autres prédateurs comme le lynx, le chacal doré ou l'ours.
L'ours un peu moins, mais ouais.
Quels sont leurs points communs finalement et comment s'adapter à leur présence en 2025 en tant que société ?
Eh bien, le problème, ça va être surtout l'ours, le lynx, le chacal. Alors, le chacal doré, on va commencer par lui. C'est un mésoprédateur, donc il s'attaque un peu à toutes les formes d'élevage et aussi de culture. En Roumanie, en Bulgarie, ils bouffent les raisins, les maïs, etc. Donc il va falloir se préparer sérieusement à la présence d'un animal comme ça. Je ne veux pas jouer de Nostradamus, mais pour eux, c'est un potentiel d'emmerdement plus conséquent que le loup. Et l'ours, ça implique de ne pas sortir seul dans les forêts, d'avoir des sprays au poivre avec soi, une clochette à la ceinture pour toujours faire du bruit, etc. Ne jamais le prendre au dépourvu et de blinder les poubelles aux alentours des villes. En fait, le changement, en fait, c'est le retour du sauvage auquel on assiste par le biais de ces animaux-là. Et le sauvage, alors bien sûr, ça apporte des tas de services, la biodiversité, etc. Mais ça apporte aussi son lot de disservices. Donc des facteurs d'emmerdement. C'est toujours plus compliqué de gérer avec un écosystème complexe plutôt qu'avec une parcelle de blé sur laquelle on fout du glyphosate. Ah ça c'est facile à gérer, ça on peut pas le retirer. Mais donc voilà, et ça veut pas dire pour autant, c'est pas parce que c'est plus compliqué qu'il faut pas le faire. Mais ça implique de la réflexion, de la cohésion sociale, de savoir comment est-ce qu'on avance ensemble sur ces animaux-là qui... De base, enfin c'est même pareil pour le sanglier, pour des tas de trucs, c'est emmerdant, ça apporte des complications et du coup c'est à nous, hommes, d'utiliser notre fabuleuse faculté de coopération qui a fait notre succès, de nous adapter en présence de ces animaux-là.
On va s'arrêter là-dessus, merci Adrien Ragondas. Est-ce que tu as des conseils, des lectures, des films pour aller plus loin?
Bien sûr. Alors Antoine Nochy, La bête qui mangeait le monde, qui a été paru il y a quelques années. Douglas Smith, The Decade of the Wolf, il est en anglais. Et puis des bouquins de Carter Niemeyer, Wolfer et Wolfland.
Parfait. Et si on veut en savoir plus sur ton travail, on renvoie vers ton site internet. Mmh. Tu veux nous donner l'adresse ?
Oui, Amaruk Science, Amaruk avec un Q, pas de grossièreté s'il vous plaît sur la radio, mais voilà, .com.
On se quitte avec Hank Williams Jr., Lone Wolf. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Radio La.
Bonne journée. Got me cornered at last.
since I was three. Born in Louisiana swamp, moved with the pack to Tennessee. Raised by black and white dogs to some country, some rock and roll. They said, now boy, you're gonna have to quit your howling soul. Staying up all night and chasing lasses by the moon. Laying up all day on the porch playing guitar.
Radio-là, c'est sur radiola.media.